Hélène Philippe pour le journal Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le géant Amazon ne s'installera pas en Loire-Atlantique. Dossier très politique, les recours et les manifestations ont fait reculer les élus. Un rapport pour composer entre le nucléaire et les énergies renouvelables et faire face à une augmentation d'électricité qui va augmenter dans les années à venir. On verra que ça ne se fera pas au même prix en fonction des scénarios retenus. Dans l'actualité encore, le Soudan et la reprise en main de l'armée. Nous étions dans la manifestation de la mi-journée. L'un des plus gros barons français de la drogue arrêté au Maroc. Et puis le prix Femina pour Clara Dupont-Mono, le Femina étranger pour un Turc qui a écrit son livre en prison. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, notre invité s'appelle Xavier Piechazik. C'est le président du directoire de RTE qui vient de rendre public les 6 scénarios d'une énergie décarbonée dont vous parliez à l'instant. Ça va donc du 100% renouvelable à 50% de nucléaire restant. Le détail des scénarios, leur chiffrage, leur impact, les choix que cela implique, la méthodologie aussi de ce travail. On en parle ensemble à vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. C'était l'un de ces projets géants qu'Amazon annonce régulièrement sur le sol français. Une énorme plateforme logistique près de Nantes, en Loire-Atlantique. Un millier d'embauches à la clé. Cette fois pourtant, alors que l'affaire se négocie depuis près de 2 ans, les élus locaux renoncent. Bonsoir Agnès Soubiran.
Bonsoir.
Comme souvent avec Amazon, le dossier est très politique.
Oui, c'est l'éternel dilemme pour les élus. D'un côté, des centaines, voire des milliers d'emplois créés. De l'autre, une opposition quasi systématique aux géants américains qui se concrétise par des manifestations soutenues par des personnalités comme là Éric Piolle et le dépôt de recours dénonçant les permis de construire et l'artificialisation des sols. Alors c'est ce qui s'est passé à Montbert, petite commune située à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Les procédures s'annonçaient très longues, au moins 5 ans. C'est ce qu'a décidé Johan Baublin, le président de la Grandlieu Communauté, à jeter l'éponge. Il l'a dit à Mathieu Bonnour de France Bleu Loire-Atlantique.
Malheureusement, on n'aura pas cette belle marque qu'est Amazon sur le territoire. C'est vraiment l'utilisation de toutes les voies de recours possibles, parfois de manière très abusive, mais qui font que finalement les projets s'enlisent et meurent de par le temps qui s'est écoulé. Et effectivement, ça c'est regrettable.
La communauté de communes espère à présent l'arrivée plus rapide et moins médiatique d'autres entreprises pour créer des emplois. Le président de Metz Métropole a lui salué avec enthousiasme l'ouverture fin août du plus grand centre Amazon de France à Osny, plus importante création d'emplois depuis l'ouverture de l'usine PSA à Trémery il y a 40 ans. Mais pour Amazon, cette décision est un coup dur. Pour un bon maillage du territoire, le géant américain a besoin de relais près de Nantes, Toulouse et Marseille. Et là, c'est plus difficile puisque l'autre grand projet actuel, c'est à proximité du pont du Gard où 2 recours ont été déposés devant le tribunal administratif. Décision attendue le 9 novembre.
Merci pour ces explications signées Agnès Soubiran et nos confrères de France Bleu Loire-Océan. Et voici donc une base de débat pour la présidentielle. Entre le nucléaire et les énergies renouvelables, que faut-il choisir pour les années à venir? Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE, dévoile une vaste étude et 6 scénarios censés permettre la neutralité carbone d'ici à 30 ans. Exercice prospectif à la demande du gouvernement, périlleux tout de même tant il est soumis à divers aléas. RTE dresse 6 scénarios, d'un moitié nucléaire, moitié renouvelable à un 100% renouvelable. Bonsoir Manuel Refez. Évidemment, tout cela ne coûterait pas la même chose.
Et oui, on a même jusqu'à 20 milliards d'euros par an de différence entre 2 de ces scénarios. Celui qui coûte le plus cher, 80 milliards d'euros par an, qui s'appuie sur le développement des énergies renouvelables de manière diffuse, c'est-à-dire individualisée, en gros, des panneaux solaires sur les toits des maisons. Le moins cher, 60 milliards d'euros, qui repose à part égale sur le nucléaire et les énergies renouvelables. Et pourquoi cette différence de prix? Ce ne sont pas les coûts de production, ni les coûts de distribution ou de transport, qui sont, bon an mal an, à peu près équivalents. Non, le responsable, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. La capacité du réseau à passer d'une énergie à l'autre, à pallier les défaillances d'une production pour basculer sur une autre. Ça coûte très cher et c'est surtout le cas pour le renouvelable. Ensuite, évidemment, RTE l'a modélisé aussi. Tout peut varier en fonction de la conjoncture. Si le nouveau nucléaire est aussi cher que le EPR de Flamanville, l'écart se réduit fortement. Si au contraire le coût des renouvelables, des gaz verts, de l'éolien flottant augmente considérablement, l'écart se creuse évidemment.
Et alors que les éoliennes font déjà débat dans la campagne entre Xavier Bertrand qui propose un moratoire ou Marine Le Pen du Rassemblement National qui veut les démonter, elles restent en bonne place hein, ces éoliennes. Dans tous les scénarios de l'étude RTE, un minimum de 25% du mix énergétique à plus de la moitié. Dans ce dernier cas, il faudrait construire près de 30 000 1000 éoliennes sur tout le territoire français. Il y en a 8400 aujourd'hui. C'est bien ce que souhaite Michel Guria, délégué général de France Énergie Éolienne, qui représente les professionnels du secteur.
C'est de nature à asseoir le débat sur des faits, puisqu'effectivement, il y a eu des propos plus ou moins farfelus qui ont été évoqués sur notre filière dans le cadre de la pré-campagne présidentielle. Et là, effectivement, le travail qui a été fait par RTE montre qu'effectivement, sans éoliennes, on ne fait pas la neutralité carbone et on n'assure pas la sécurité d'approvisionnement du pays. Dans tous les scénarios, les énergies renouvelables et notamment l'éolien a une part importante, puisque sur l'éolien terrestre, on est de 13 à 31% du mix électrique en fonction des scénarios, et sur l'éolien en mer, on est de 12 à 21% du mix électrique à l'horizon 2050. On se retrouve dans des scénarios où on aurait entre 30 et 35 000 éoliennes qui seraient implantées sur le territoire national, sur terre et en mer. Il faut avoir en tête que ce scénario-là, 30 à 35 000 éoliennes, est un scénario dans lequel il y a moins d'éoliennes dans 30 ans en France qu'il y a d'éoliennes aujourd'hui en Allemagne sur un territoire qui est un tiers plus petit.
Le délégué général de France Énergie Éolienne au micro de Sandy Dauphin. En tout cas, s'il fallait un rappel, l'agence météorologique de l'ONU se charge de le faire aujourd'hui. Le climat est en dérapage incontrôlé. Les concentrations de gaz à effet de serre ont encore atteint des niveaux records l'année dernière, malgré la chute de l'activité liée à la pandémie. D'où cette idée d'impôt sur la fortune climatique. Proposition de la candidate socialiste Anne Hidalgo et de l'écologiste Yannick Jadot. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Les candidats défendent-ils la même chose ?
Eh bien, pas tout à fait. Pour Anne Hidalgo, il s'agit de remettre au goût du jour l'impôt sur la fortune supprimé en 2018 pour financer la transition écologique. Les ménages les plus fortunés sont ceux qui consomment le plus, dit-elle, et qui ont le bilan carbone le plus élevé. Pas question donc de faire le tri entre ceux qui voyagent en jet privé ou qui financent des activités qui polluent et les autres. Cet impôt sur la fortune s'appliquerait indifféremment à tous ceux dont le patrimoine dépasse un seuil qui reste à définir. L'argent pourrait permettre, explique la candidate du PS, de faire baisser la TVA sur les carburants ou d'aider les ménages modestes à acheter une voiture électrique. Les écologistes, eux, veulent aller un peu plus loin avec là aussi un rétablissement de l'ISF, une suppression des niches fiscales, mais aussi un système de bonus-malus. Si vous avez de l'argent et que vous l'investissez dans des produits verts ou des énergies renouvelables, vous payez moins d'impôts. Si vous investissez dans le pétrole ou dans les secteurs qui produisent massivement du carbone, là, vous êtes plus lourdement taxé. L'organisation Greenpeace a fait le calcul. Le système pourrait rapporter chaque année près de 4,5 milliards à l'État.
Et sur la flambée des prix du gaz et de l'électricité, le ministre de l'économie Bruno Le Maire souhaite une réforme du marché européen dont il juge les règles obsolètes. Ça ne peut être une solution pour amortir la hausse actuelle, lui répondent sans le nommer 9 pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, ce soir, dans une déclaration commune à la veille d'une réunion des ministres européens de l'énergie.
L'inquiétude est internationale après ce coup d'état militaire au Soudan.
Cela faisait des semaines que la tension montait entre militaires et civils qui se partagent le pouvoir depuis la destitution de l'autocrate Omar el-Béchir en 2019. Le premier ministre soudanais et tous les membres de l'autorité de transition ont été arrêtés ce matin par l'armée. Des milliers de personnes, bien décidées à ne pas voir s'échapper la transition démocratique, sont descendues dans la rue en début de journée. Eliott Braché à Khartoum parmi elles.
Aux alentours de midi, ils étaient des milliers à converger vers le centre de Khartoum, venus de tous les quartiers, descendus spontanément lorsqu'ils ont vu que le réseau était coupé et compris que les généraux tentaient le coup de force.
Nous supportons la transition démocratique. Les autorités ont signé un accord constitutionnel qui les y engage. Nous nous opposerons à toute tentative de ne pas le respecter. Nous attendons un gouvernement civil élu, rien d'autre.
Les manifestants ont emprunté la direction du quartier général de l'armée, mais ils ont été accueillis par des tirs à balles réelles. Avec l'état d'urgence, les rues se sont vidées. Quelques irréductibles tiennent encore des barricades.
Nous avons un slogan depuis la révolution. Les balles ne tuent pas. Ce qui tue, c'est le silence imposé au peuple. Nous, les révolutionnaires, on est descendus en juin dernier, la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous voulons rendre justice à nos martyrs.
Ce soir, on entend encore des rafales de tirs à répétition. De nombreuses arrestations sont en cours, selon plusieurs militants. Ces derniers appellent tout le peuple soudanais à la désobéissance civile. Eliott Braché, Khartoum, France Inter.
Les affrontements auraient fait au moins 4 morts et 80 blessés. Le chef de l'ONU condamne ce coup d'état militaire, appelle à la libération du Premier ministre, tout comme Emmanuel Macron. Pour la France, l'étranger encore et la Turquie qui se félicite après avoir menacé d'expulser plus de 10 diplomates étrangers qui s'étaient mobilisés en faveur du philanthrope Osman Kavala, emprisonné depuis 4 ans sans jugement. Recep Tayyip Erdogan affirme que les Occidentaux ont reculé. Plusieurs ambassadeurs ont rappelé leur engagement à l'article 41 de la Convention de Vienne cet après-midi, s'engageant à ne pas s'immiscer dans la politique intérieure, démarche saluée par Ankara qui ne les expulsera donc pas. Elles viennent parfois de très loin, les familles qui témoignent au procès des attentats du 13 novembre à Paris. La mère de Luis a fait le déplacement depuis le Chili. On a raconté avant l'ouverture du procès les embûches de cette famille pour suivre l'enquête et même venir en France pour les audiences à cause des contraintes sanitaires. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
La mère de Luis était donc bien là aujourd'hui.
Elle s'avance à la barre d'un pas décidé, comme pour ne pas flancher. Luis avait 33 ans quand il est mort au Bataclan, mais ce n'est pas par là que sa mère Nancy commence son récit. Non, elle démarre par ce procès qui a failli se tenir sans elle. Aucune instance officielle n'a pensé à la prévenir. Je suis arrivée à Paris la veille de l'ouverture, sans avocat. Puis, via un interprète, elle raconte son 13 novembre, vécu depuis Viña del Mar à des milliers de kilomètres. J'ai vu à la télévision qu'une série d'attaques avait lieu à Paris, un théâtre dans lequel chantait Eagles of Death Metal, l'un des groupes préférés de son fils. Alors, elle passe la nuit à guetter les images à l'écran jusqu'à l'appel du consulat pour lui annoncer la mort de Luis. Un silence, sa voix se brise. J'aimerais oublier la nouvelle, le contexte. L'État islamique, c'est quelque chose de si lointain pour nous. Luis, parti en France en 2008, rejoindre sa compagne Cécile. Un joli couple, disent leurs proches à l'audience, unis par la musique et un coup de foudre, désormais enterrés ensemble à Gap. Nancy aimerait maintenant savoir comment son fils est mort, s'il a souffert. Elle a décidé de s'installer à Paris le temps du procès, afin de le suivre jusqu'au bout, afin, dit-elle, d'obtenir les réponses aux questions que je me suis posées pendant toutes ces années.
Ariane Grissel avec Gilles Gallinaro en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. C'était un homme recherché depuis des mois, considéré comme l'un des plus gros trafiquants de drogue français. Sofiane Ambly a été arrêté au Maroc vendredi dernier, impliqué notamment dans le scandale de l'importation en France de 7 tonnes de cannabis en 2015. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
On l'a retrouvé dans une clinique de Tanger où il venait d'arriver après avoir été agressé en pleine rue.
Oui, une attaque avec une arme blanche de très grande taille au vu de la blessure au visage du narcotrafiquant. Une profonde entaille sur près de 20 cm plongée dans le coma vendredi dernier. Sofiane Ambly serait aujourd'hui conscient, mais son pronostic médical est toujours réservé. Les policiers marocains ont retrouvé des faux papiers allemands sur lui. Ce qui est sûr, c'est que depuis des années, Sofiane Ambly s'est fait de nombreux ennemis. Au Maroc, en Espagne, en France, tous ceux qui l'accusent d'être devenu une importante balance de la police judiciaire française, tout en continuant à faire de juteuses affaires. Sofiane Ambly était en cavale depuis le début de l'année, après avoir bénéficié d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire, une décision de la Cour de cassation. L'homme, âgé de 46 ans, avait contesté avec succès son implication dans un trafic de 4 tonnes de cannabis avant que la justice ne cherche à le rattraper, mais c'était trop tard. Sofiane Ambly est surtout connu pour avoir été l'informateur, donc principal, durant de longues années de l'Office central des stupes jusqu'en 2015, date, vous l'avez dit, de la saisine par les douanes de 7 tonnes de cannabis boulevard Excelmans à Paris, une cargaison qui appartenait à Ambly et qui a précipité la chute du chef de l'Office des stupes de l'époque.
Emmanuel Leclerc.
Et l'île de Pâques ne veut plus voir de touristes.
Les habitants l'ont fait savoir hier lors d'une consultation. Bien tranquille depuis 2 ans avec la pandémie, l'île est fermée aux visiteurs. Sauf que son économie est quand même très liée au tourisme. Clémence Pénard.
À la question « Voulez-vous ouvrir l'île en janvier ?», c'est le non qui l'emporte hier à 67%. Un résultat qui s'expliquerait par la crainte d'être touché de plein fouet par la pandémie, selon David Tellier, résident depuis 25 ans sur l'île de Pâques.
Moi, je comprends les résultats du vote de dimanche. On a un simple dispensaire et il n'y a que 2 lits en urgence. Donc évidemment, les gens ont peur. Ce qui est un petit peu compréhensible. Maintenant, effectivement, la situation est préoccupante. On vit à peu près, ou on vivait avant mars 2020, la date à laquelle on a arrêté les vols, on vivait à 90 ou 95% du tourisme.
Et David sait de quoi il parle. Il était lui-même guide touristique sur l'île, mais maintenant il crée des sites internet.
Il n'y a plus d'activité de guide touristique depuis mars 2020. Il n'y a plus aucun tour, il n'y a plus aucun touriste. Donc j'ai dû changer de métier et évidemment j'espère que la situation va quand même revenir à la normale le plus tôt possible.
Malgré ce vote, la décision finale reviendra aux autorités sanitaires chiliennes dont dépend l'île de Pâques. Le ministère chilien de la Santé n'a d'ailleurs pas encore dit s'il comptait se plier ou non à cette consultation.
L'économie et l'aérien est loin de retrouver son niveau d'avant-crise. Les compagnies françaises anticipent une baisse de leur chiffre d'affaires proche de 60% encore en 2021 par rapport à 2019. Baisse particulièrement sensible sur les longs courriers qui ne repartent pas comme avant, notamment vers l'Asie. Et puis voici un nouveau chèque pour faire face à la pénurie d'animateurs dans les centres de loisirs ou les colonies de vacances. Le gouvernement annonce une aide exceptionnelle, 200 euros pour financer le BAFA, le brevet d'aptitude pour devenir animateur, plutôt bien accueilli par ces jeunes en formation que Martin Delacou a rencontré aujourd'hui dans l'heure à Gagny.
Ils sont 11 stagiaires à être présents pour ce premier jour. La formation va durer toute la semaine. Ce brevet, dédié initialement à de jeunes adultes, attire des candidats de tout âge. Gaëtan, 27 ans.
Je suis animateur de volleyball. Du coup, c'est quelque chose que j'aime bien, travailler avec les enfants. Et du coup, ça pourrait me permettre, pendant les vacances par exemple, de faire des séjours, des choses comme ça avec les enfants. Et dans l'année, faire des entraînements de volley par exemple.
Difficile pour les jeunes de trouver l'argent pour financer la formation. Elle coûte de 800 à 1000 euros. Khadija, 18 ans.
C'est compliqué pour moi, surtout à mon âge, de trouver de l'argent. Je me suis appuyée sur ma mère, mais pour ma mère aussi, c'est un peu compliqué. Elle n'avait pas forcément l'argent pour payer directement, financer tout ça d'un coup. Du coup, on a fait en deux chèques. Voilà.
Cette formation est organisée par Seine Normandie Agglomération, qui peut donc piocher dans ce vivier de jeunes diplômés sur son territoire, même si le recrutement est parfois compliqué. Muriel, l'une des formatrices.
C'est affolant de voir le nombre de directeurs qui recherchent la veille du départ, qui recherchent encore leurs animateurs, qui recherchent à compléter leurs équipes. Sinon, ils vont être bloqués parce qu'ils ne peuvent pas encadrer convenablement et en respectant la réglementation.
Pour attirer de futurs animateurs, l'âge d'accès au BAFA pourrait bien être abaissé de 17 à 16 ans.
Et l'aide sera versée l'année prochaine à quelques 20 000 candidats.
Mais voilà, enfin, on a tous le BAFA, on a la génération BAFA, nous, Hélène. Allez, c'est le premier des grands prix littéraires de l'automne. Il revient à une autrice qu'on connaît bien ici.
Clara Dupont-Monod, lauréate du prix Femina pour son dernier livre, S'adapter, qui raconte l'arrivée d'un enfant handicapé dans une fratrie. Ce que ce prix couronne va au-delà du livre, s'est-elle réjouie cet après-midi. Et c'est un peu la même chose pour le Femina du roman étranger qui récompense le Turc Ahmet Altan pour le livre Madame Hayat, un roman écrit en prison et qui n'est même pas encore paru dans sa langue d'origine, Ilana Moryoussef.
Ahmet Altan n'a pas pu venir pour recevoir son prix, mais il avait pris soin d'enregistrer une courte vidéo pour remercier le jury. Et surtout, son éditeur, Timur Muhyiddin, a lu la lettre qu'il a envoyée.
Madame Hayat, titre du roman, a vu le jour dans une cour de prison qu'elle a illuminée de son ironie et de son sourire taquin. Pendant des jours, des mois, des années, elle a vécu avec moi en prison. Aujourd'hui, Madame Hayat va là où je ne peux aller. Elle rencontre des gens que je ne peux rencontrer. Elle discute avec des gens à qui je n'ai pas la liberté de parler. Elle a vu le jour en prison, mais aujourd'hui, elle se promène dans Paris. Libre et heureuse. Sa liberté me rend plus libre. Je vous suis infiniment reconnaissant de m'accorder ce bonheur et cette liberté.
Alors qu'il est lui-même loin d'être tiré d'affaire, plusieurs accusations pèsent encore sur lui, Ahmet Altan a eu une pensée pour ses compagnes d'infortune.
Je veux dédier ce prix à toutes les femmes turques et kurdes injustement emprisonnées pour des raisons politiques au cours de ces années passées avec Madame Hayat. Pour leur dire que même si le droit et la justice les ont oubliées, la littérature, elle, ne les a pas oubliées. Et ne les oubliera jamais. Une fois encore, merci à toutes et tous.
Son roman, Madame Hayat, devrait paraître en Turquie au mois de janvier.
Et il a été traduit en français par Julien Lapère de Cabane. Le prix de l'essai a été décerné à Annie Cohen-Solal pour un étranger nommé Picasso. Et on le disait, ce n'est que le début. Avant le prix Médicis, demain, et les prix Goncourt et Renaudot le 3 novembre prochain. Et ce soir, à la télévision, une voix que vous connaissez bien.
C'est une affaire aussi édifiante que rocambolesque que nous allons vous raconter ce soir. Une lutte sans merci entre les États-Unis et la France pour le contrôle de l'un des fleurons industriels français, l'entreprise Alstom.
La suite ce soir sur France 2, c'est à 22h50. C'est version télé, évidemment, de l'émission Affaires Sensibles, la plus podcastée, hein, toujours de France Inter. Retour ce soir, vous l'avez entendu, sur l'affaire Alstom, une guerre secrète à 12 milliards d'euros.
Tain, là, on a envie de faire comme ça derrière. Quel suspense. Merci beaucoup, Hélène Filier.